Culture et loisirs,
une émission proposée
par Fabrice Gironnet.
Bonjour Georges Malto.
Bonjour.
Alors dans une précédente émission, vous nous avez fait découvrir Radio Andorre. Rappelons que dans les années 60, vous avez été, vous, le Rémois, animateur sur Radio Andorre. On va parler de cette époque, on va parler de votre épopée radiophonique tout en illustrant cette émission d'extraits sonores que vous avez d'ailleurs fournie au site internet acquiradioandorra.free.fr, un site que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez tout connaître sur l'histoire de cette radio, Radio Andorre. Alors, Georges Malto, vous êtes jeune, vous êtes étudiant et vous vous retrouvez en Andorre. Comment ça se fait ?
Bah écoutez, déjà très jeune, j'étais un passionné de radio. À 13 ans, avec une de mes tantes qui était professeure au lycée Berthelot de Toulouse, je suis allé visiter les studios de Radio Andorre. J'avais 13 ans donc. Et c'est vrai que c'était un rêve d'enfant qui s'est concrétisé. J'ai fait mes études à l'école supérieure de commerce de Reims. Et pendant mon stage d'études, qui était obligatoire à l'époque, j'ai fait ce stage à la Dépêche du Midi à Toulouse, un grand quotidien régional, qui avait des relations un peu privilégiées avec Radio Andorre. Et c'est au cours de ce stage que je suis parti en Andorre, c'est en 1961, faire des essais de voix, visiter la station. Et puis on a décidé que je viendrais travailler chaque fois que possible en Andorre.
C'était difficile à l'époque d'intégrer une radio. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, faut dire... par rapport à ce qu'on connaît maintenant.
Écoutez, pour moi, non. C'était peut-être difficile en général, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les dirigeants de Radio Andorre ont senti une espèce de passion qui m'animait. Mais en tout cas, après les essais de voix qui ont été concluants, ça aurait pu ne pas être le cas, on m'a dit, vous venez l'année prochaine. Donc pour moi, ça a été très facile.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant c'est le début des années 60, c'est ça ?
De 1961 à 65, on va dire.
Qu'est-ce que vous avez fait alors exactement à Radio Andorre à cette époque ?
J'ai tout fait. J'ai fait du micro, bien sûr, ce qui me plaisait le plus. Mais j'ai fait de la programmation parce que dans cette petite station commerciale privée, dans cette radio périphérique, les animateurs étaient programmateurs. C'est-à-dire que c'était les animateurs qui devaient choisir les disques de la journée en dehors des disques imposés par les maisons de disques dans le cadre de contrats publicitaires, bien sûr, ou des émissions spécialisées. Donc on faisait de la programmation, on faisait de l'émission, j'ai fait du reportage, j'ai interviewé pas mal de grandes vedettes, voilà, donc c'était sympathique parce qu'il y avait une ambiance un petit peu familiale, les relations étaient tout à fait cordiales.
Mais vous ne faisiez pas à l'époque, et ça se fait de plus en plus dans la radio maintenant, vous ne faisiez pas la technique ?
Ah, pas du tout, pas du tout. On avait des opérateurs du son, comme on appelait à l'époque, des techniciens, avec un technicien chef, et qui était de l'autre côté de la vitre, comme ça existe chez vous aussi, d'ailleurs.
Aussi.
Et donc voilà, mais moi je ne me suis jamais intéressé, ni jamais occupé de technique.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez plus particulièrement aimé, je ne sais pas, animer une émission, faire de la programmation, faire des interviews, faire du journalisme aussi ? Qu'est-ce qui vous a le plus plu ?
Moi, je préférais l'animation d'antenne. J'avoue que je préférais ça. Puisqu'on choisissait nos disques nous-mêmes, c'était le programme qu'on avait décidé de présenter. Alors, il y avait une chef programmatrice qui coordonnait les programmes parce que, dans l'absurde, l'animateur qui suivait votre tranche aurait pu programmer exactement les mêmes titres. Donc, il y avait une chef programmatrice qui regardait les programmes et enlevait un disque s'il fallait enlever un disque, par exemple. Non, je crois que l'animation d'antenne, c'était ce que je préférais.
Alors, je vous propose que l'on vous écoute, justement, dans un premier extrait.
Emissora del Principado de Andorra.
Radio Andorre, 360 en moyenne, 50m04 en courte. Amis auditeurs, bonjour à tous, au micro Georges Malto, qui vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de nos programmes, qui bien entendu vont commencer en musique.
Alors là, on a tout, on a l'émetteur qui s'allume, c'est ça ce qu'on appelle le 1000 Hz.
On appelait ça le 1000, c'est-à-dire une fréquence de 1000 Hz pour caler l'émetteur. Je ne sais pas si ça existe encore, mais
toujours, pour les réglages.
Ça existait.
Mais on ne les donne plus aux auditeurs maintenant, c'est
contre nous. C'est ça, mais à l'époque on l'avait. Ensuite, il y a la marche des conseillers d'Andorre qui ouvrait les émissions chaque matin à 6h du matin.
C'est quoi, c'est l'hymne d'Andorre ça ?
C'est pas l'hymne d'Andorre, l'hymne andorran, lui, clôturait les émissions à minuit ou 1h du matin selon la saison. C'est la marche des conseillers d'Andorre, c'est une autre musique officielle andorrane, si vous voulez. Alors, suivi du gong, bien sûr, qui a disparu plus tard.
Alors, justement, il y a des photos de vous sur ce site acquiradioandorra.free.fr. On voit le gong, c'est-à-dire c'était en direct.
Ah oui, tout à fait.
C'était la balise horaire en
tapait,
direct.
On tapait sur le gong. Et il y avait des anecdotes, par exemple, les animatrices qui avaient quelquefois des bracelets, lorsqu'elles tapaient sur le gong, on entendait le bruit successif des bracelets qui frappaient également le gong.
Il y avait des programmes la nuit sur Radio Andorre à l'époque, non ?
Les programmes les plus tardifs étaient jusqu'à 1h du matin. C'était une émission destinée aux routiers qui s'appelait « Sur les routes de France et d'Espagne » présentée en deux langues, espagnol et français. C'était Maria Poura et Michel Brard qui présentaient cette émission de minuit à 1h du matin.
Donc Max Meunier n'a rien inventé.
C'était dans le même esprit, effectivement.
Ouais, il y avait Radio France aussi avec France Inter, ouais. Je ne sais plus comment s'appelait l'émission, mais effectivement, on s'intéressait aux routiers à l'époque et on s'intéresse plus au sport maintenant. Parenthèse fermée. Alors, moi, j'ai vu des photos aussi de ce studio. C'était un ancien hôtel déjà, c'est ça?
C'était l'Hôtel de France où étaient les studios et les bureaux. C'était un grand hôtel qui dominait un petit peu la capitale, Andorre-la-Vieille. Ça s'appelait le Roc des Anneillettes. Et cet hôtel avait été racheté par M. Temoulet en 1939. Et c'était devenu les studios de Radio Andorre et les bureaux de Radio Andorre. Le poste émetteur étant, lui, au pic d'Ancan, à 3 km environ d'Andorre-la-Vieille.
Alors, c'est marrant, ce grand studio, on a une cheminée derrière, c'est ça?
Oui, il restait la cheminée en cuivre, qui était une très très belle cheminée, que la direction n'a jamais voulu supprimer, sauf sur les derniers temps où devant la cheminée, on avait fait des espèces de gradins pour recevoir du public. Mais c'était le grand studio, effectivement.
Il y avait combien de studios à Radio Andorre? Il y avait ce grand studio, donc
Il y avait, sur la fin, à l'époque où j'y étais, il y avait deux studios. Ce grand studio et un studio d'enregistrement assez grand aussi au deuxième étage. Et plus tard, un deuxième studio au rez-de-chaussée a été créé, mais moi, je ne l'ai pas, j'ai pas travaillé dans ce deuxième studio.
On va écouter un deuxième extrait donc, de vous dans la matinale.
C'était The Lonely Bull, c'est-à-dire le taureau solitaire, que Petula Clark chante en français sous le nom de Plaza des Toros, par les Ventures et Billboard March par Henri Mancini. Voici maintenant accordé en nouveauté avec Freddy Carrara, Louis Ferrari et Hector Delfosse. Par Freddy Carrara, c'était avec élan, Plaza des Flores par Louis Ferrari et la Java des Routiers par Hector Delfosse. Pour vos petites blessures, pensez vite, pensez bien, pensez Urgo aéré. Urgo, le pansement tout près qui laisse respirer la peau. Et maintenant, retrouvant Fredo Gardoni, Maurice Vitney et Roger Pintos.
Alors, on vient de vous entendre dans la matinale. On appelait ça la matinale déjà à l'époque,
hein? Oui, ça s'appelait la matinale. Moi, je faisais la tranche de 6h à 9h.
Avec une pub pour Urgo.
Urgo Erré, les pensants.
En l'occurrence. Oui. Alors, à l'époque, c'était une tradition que le speaker, je ne sais pas comment vous appelez animateur, DJ, speaker.
À l'origine, c'était speaker. Après, c'était animateur.
Donc, c'était une tradition que l'animateur lise lui-même les publicités.
L'essentiel des publicités était lu au micro. Nous avions des justificatifs de publicité qui accompagnaient le conducteur. Et donc, on devait paraffer le justificatif, noter l'heure de diffusion. Et c'était renvoyé à Paris, à la régie publicitaire qui était à Paris.
Et alors, c'est arrivé des fois, je ne sais pas, est-ce que vous avez des petites anecdotes de publicité que vous n'avez pas réussi à faire, de
absolument,
mots sur lesquels vous avez trébuché?
Absolument. Mais c'était très fréquent, hein, des bafouillages en direct. Bah oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais. Alors, là, c'était le créneau 6-9. Vous avez fait uniquement les matinales?
Ah non, non, j'ai un peu tout fait. Hein. J'ai fait du 12-14, j'ai fait du 16-18. Alors, 16h, c'était l'émission de musique classique. Tous les jours, à 16h, on avait une demi-heure de musique classique, donc j'aimais bien. On avait du jazz le matin aussi à 7h. Voilà, il y avait des tranches comme ça. Et j'ai fait aussi la soirée de 21h à 22h.
Et les émissions, c'était quoi? C'était principalement des lancements de disques, l'info, la météo pour le matin, par exemple?
Essentiellement des lancements de disques. Bon, puis des disques, encore une fois, comme je vous dis, nous étions non-programmateurs, donc nous choisissions nous-mêmes les disques. Donc on se faisait plaisir quelque part. Mais on avait aussi des disques qu'on était obligés de passer dans des contrats qui étaient signés par les sociétés d'édition de disques qui payaient la station pour diffuser les disques.
Est-ce qu'il y avait à l'époque de l'interactivité avec les auditeurs?
Pas de mon temps. Ouais. Ça s'est fait un petit peu plus tard. Par contre, de mon temps, on avait une émission qui s'appelait « L'antenne est à vous », où les auditeurs de passage en Andorre, les touristes, ça se faisait l'été entre juillet et août, venaient dans le studio, choisissaient la veille ou l'avant-veille un titre et le présentaient eux-mêmes au micro avec l'animateur à leur côté.
Alors, on vous a écouté là dans des extraits des matinales. On va justement vous écouter dans un extrait du soir.
Radio Andorre, il est 22h03, j'ai volé 3 minutes à mes camarades Rosabelle et Maria Poura, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas.
On va vous en vouloir.
Ah oui, c'est pas bien, ça. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Bonsoir, Silvia. Amigos oyentes todos de Radio Andorra, muy buenas noches.
Amigos, como siempre y una vez más, muy buenas noches.
Bueno, lo que hemos dicho no es verdad, no queremos ningún mal a ellos.
Alors là, c'est le passage d'antenne à 22h entre le programme français et le programme espagnol. Il y avait de l'espagnol sur Radio Andorre.
Oui, de 22h à minuit, c'était un programme en langue espagnole. Ça a été modifié un petit peu sur la fin, où de 21h à 22h, on avait un programme en langue catalane. Un petit peu pour faire plaisir aux Andorrans, bien sûr. Mais depuis toujours, de 22h à minuit, c'était un programme en langue espagnole.
Donc, à part ces deux heures-là, Radio Andorre était une radio en langue française.
En langue française, l'essentiel de la journée.
Alors, vous avez aussi, notamment sur Radio Andorre, interviewé des personnalités comme celle-ci.
Tu composes la plupart des paroles de tes succès, et je crois que tous tes succès, et je crois que le chanteur vit mieux ses chansons lorsqu'il a composé lui-même comme les paroles. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, très très important. Reprenant encore les anciennes vagues, je suis français quand même avant tout. Là, je t'ai donné le système des Américains un petit peu avant. C'est-à-dire qu'un Américain, prenons Sammy Davis Jr. en exemple, à 5-6 ans, attends, je vais demander, est-ce que ça passe le bruit, Michel, tu es gentil, tu fais pas de bruit ?
Ça fait rien, ça fait un bout de fin, on voit qu'il y a de l'activité ici quand même.
Il bouge. Non, je voulais dire, donc, Sammy Davis a été, tu sais qu'à 4-5 ans, quand il avait 4-5 ans, tout petit, il allait sur les planches avec ses parents, etc. Donc, il a à peu près 45 ans, ça fait donc 40 ans.
Alors, quelle est la personnalité qui était à votre micro ?
Claude François, ses débuts, c'était en 1963. Claude François, tout jeune chanteur.
Vous avez interviewé beaucoup de personnalités comme ça ? Vous
un
avez
certain reçu... nombre. J'ai interviewé Beco, Aznavour, Petula Clark. Bon, j'en oublie certainement.
Et alors là, je vais vous poser la question qui tue, parce que si elle n'a pas été préparée, c'est très dur. Est-ce que vous avez des anecdotes justement avec ces personnalités ou avec la radio en général ?
Mais je ne vais pas me laisser faire. Non, je n'ai pas d'anecdote. Non, effectivement, non, non. Si, l'anecdote peut-être concernant Petula Clark. Ouais. Elle venait de remporter les Bravos du Music Hall. Mes confrères d'Europe 1 voulaient l'interviewer, mais s'y sont pris un petit peu cavalièrement. Elle a refusé l'interview. Et moi, j'ai eu la chance de faire l'interview après, donc j'étais très fier d'avoir réussi là où mes confrères d'Europe 1 avaient échoué.
Alors, c'est marrant parce que là, Claude François, vous le tutoyez, enfin, vous vous tutoyez.
On se tutoyait, oui, ouais. C'était un peu la mode à l'époque. Hein. Ouais. J'avais 23 ans à l'époque.
Voilà, en tout cas, je vous remercie, Georges Malto. Est-ce qu'on peut dire que ce retour en radio, là, en studio, a réveillé en vous la flamme radiophonique ? Elle ne s'est jamais éteinte ?
Elle ne s'est jamais éteinte. Hein. C'est un virus qu'on a toute sa vie, je crois. Hein.
Alors, pour continuer à revivre cette aventure de Radio Andorre, je vous rappelle un site qui est très bien fait, acquiradioandorra.free.fr. Un site signé Jean-Marc Prine, que vous connaissez aussi, hein, par ailleurs.
Bien sûr,
vous lui avez fourni beaucoup de documents, d'ailleurs. Et puis, deux autres sites. Un pour tout connaître sur l'histoire de la radio en général, de sa création à maintenant. Ça s'appelle 100 ans de radio, 100 c'est en chiffres, 100 ans de radio.free.fr et un autre qui est un annuaire de radio, qui s'appelle tout simplement annuaire de la radio.com. Merci beaucoup Georges Malto, vous voulez rajouter
oui,
quelque chose ?
Oui, simplement dire que le site Aquí Radio Andorra, c'est Aquí Radio Andorra attaché, bien sûr.
Attaché, Aquí Radio Andorra attaché, oui. .free.fr. Merci beaucoup.
Merci.